T'sais, t'as la chance d'être grande, montre-nous tes jambes.
C'est révoltant. Voyons.
Allô, je m'appelle Rosemie Autonne-Témorin, je suis rédactrice en chef du magazine Urbania. Bienvenue dans le deuxième épisode de ce balado qui réunit les cinq nommés de la catégorie culture et divertissement du spécial extraordinaire 2017 du magazine Urbania. Ce sont Marie-André Labbé, auteure pour la scène et la télévision, le comédien Emmanuel Schwartz, l'auteur et dramaturge Simon Boulris, l'auteur-compositrice-interprète Charlotte Cardin et Kate Shangtom, auteure, essayiste et poétesse trans.
Les gens ordinaires ne m'intéressent pas. Donc...
Je me sens toujours un petit peu opprimée.
Je me dois de tresser le drame et l'humour constamment parce que la vie, c'est ça.
Dans le premier épisode, on a discuté de ce qui motivait nos invités dans la création. Tranquillement, ça nous a amené à jaser d'authenticité. C'est pas toujours facile de s'afficher sans compromis et c'est d'ailleurs ce que souligne Marie-André Labbé.
C'est pas vrai que tout le monde est prêt à accepter tout ce qu'on propose. Moi, en tout cas, je le vois parce que c'est des grosses machines.
Demeurer authentique dans ces conditions-là, c'est un défi.
Ben oui, ouais. C'est un défi. Ça prend une bonne personnalité, puis il faut vraiment que tu mettes tes limites. Puis ce compromis-là, je le fais pas, quitte à ce que, bon, ça fasse pas l'affaire.
Mais en tant que femme, est-ce que ce commentaire-là passe bien?
Hey boy! Ben, c'est...
Le pouvoir est-ce du nombre est souffrant.
Mettons dire non à un producteur hétéro 55 ans qui dit non, fille, ça marche pas comme ça, c'est moi qui...
C'est sûr que c'est, je quitte bien avant que ça, ça m'arrive.
Mm-hmm. Okay.
Mais aussi, je me présente, j'affiche mes couleurs
d'emblée,
très tôt.
Donc ils savent à quoi
très
s'attendre.
Très tôt, ils savent à quoi s'attendre. Puis mes projets sont quand même très signés, tu sais. Ouais. Les gens qui m'engagent, ils savent que s'ils me laissent pas... complètement libre, ça va être moins bon, tu sais. Mais c'est vrai que je m'arrange pour être fine. Il y a de la manipulation dans... qui doit être faite, là.
C'est plate, ça, hein?
Ben, ouais, c'est plate.
Faut tout le temps être tellement fin.
Ouais,
si on n'est pas
ça.
Fin, va-t'en.
Va-t'en.
C'est ça.
Puis je pense que, tu sais, là, je développe ma personnalité de pas fine, là. Je la laisse sortir, je suis de moins en moins fine, tu sais. Puis c'est... Parce qu'à un moment donné, il faut mettre le pied à terre. Puis je pense que la façon dont on a été élevé fait ça. Le fait qu'on, tu sais...
Absolument.
Puis tout ça, j'essaie de me débarrasser le plus possible de ça, tout en étant une bonne personne, là. Je veux dire, pas devenir une marde demain matin non plus. Mais, mais l'idée, c'est d'être ferme, puis de dire, regarde, je sais ce que je fais, tu sais. Mais fais-moi confiance.
Ça, c'est dans le milieu professionnel. Mais dans l'œil du public, quand on est une figure populaire, on l'a vu cette année, ne serait-ce qu'en citant Safia Nolin, c'est difficile d'être authentique, de s'afficher sans compromis, peut-être même plus quand on est une femme. Charlotte Cardin, vous avez eu des commentaires d'internautes sur votre poids alors que vous participiez à La Voix.
Ouais.
Aujourd'hui, est-ce que c'est difficile de vous afficher devant le public?
Ce n'est plus depuis que j'ai décidé que les commentaires comme ça, ben, je les écoutais plus, puis que j'ai décidé que je faisais vraiment ce que je voulais, là. Prendre cette décision-là à la base, c'est vraiment difficile. Puis quand j'ai fait La Voix, effectivement, c'est une plateforme qui rejoint tellement les gens qui sont dans le confort de leur lazy boy, qui sont chez eux, puis qui regardent ça, puis qui se permettent de critiquer, tu sais, tout ce qu'ils voient. Puis j'ai eu beaucoup de peine en lisant des commentaires. Puis quand je suis sortie de cette émission-là, je me suis juste dit, ben peu importe ce que je fais, personne ne va être content. Alors, je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est juste être bien avec ce que moi, je fais. Puis moi, me sentir bien, puis me sentir à l'aise. Donc, c'est ça que je fais maintenant. Mais c'est sûr que je le reçois encore. Je les reçois, les commentaires, genre, ben, tu sais, tu t'habilles. Tu sais, j'ai fait un événement corporatif, puis on me dit, ben ouais, mais tu sais, tu portes un jeans puis un T-shirt. Tu sais, c'est vraiment pas approprié. Tu devrais être un petit peu plus sexy, un petit peu plus, tu sais, t'as la chance d'être grande. Montre-nous tes jambes.
C'est révoltant.
Puis moi, j'entends ça, puis je me dis, mais voyons donc, tu sais, moi, ça me fait capoter d'entendre ça. Fait que justement, on dirait que j'essaie de me séparer de ça, mais les commentaires comme ça, on en entend toujours.
Mais je suis curieuse d'en entendre plus sur ce processus-là, parce qu'adolescente, vous étiez mannequin. Alors, on vous dirigeait, on vous indiquait quel mouvement faire. Maintenant, vous êtes une artiste à part entière. Il y a sûrement une construction de personnage qui s'est effectuée.
Non, ben je pense en fait c'est le contraire de ça. Je pense que la construction de personnage, ben je l'ai faite en étant mannequin parce qu'à chaque jour t'es quelqu'un de différent. Puis moi c'est ça qui me plaisait quand même parce que c'était comme un peu du jeu, tu sais, c'était comme tu te fais habiller, tu te fais maquiller, tu te fais coiffer, puis là pendant tu sais quelques heures t'es quelqu'un d'autre. Je pense que ça a été de déconstruire tout personnage qui a pu être construit pendant les années que j'ai fait du mannequinat qui a été plus difficile. Tu sais, je me suis dit ok, je suis qui moi, tu sais, puis le personnage, entre guillemets, que je suis sur scène, c'est pas un personnage, là. C'est juste moi, puis je suis habillée pareil pendant mon soundcheck que pendant mon show, puis pendant mon souper de famille. Puis justement, c'est de déconstruire ça, puis de déconstruire ce que j'avais un peu vécu devant les caméras avant, qui a été plus le défi, mais je suis tellement contente de l'avoir fait, puis d'avoir fait ce processus-là, parce que là, je suis super bien, puis je me présente telle que je suis, là.
Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression que l'artiste doit d'une façon ou d'une autre se construire une marque. On est tous notre propre patron, on est tous notre propre pub, on est tous pigistes. Puis je me demande comment c'est ce travail-là quand on veut évoluer de façon authentique comme vous.
Impossible.
C'est vrai?
Ouais, moi, j'ai cette impression-là. En fait, je trouve que toute la question du branding, là, c'est d'un ennui mortel.
Mais c'est incontournable.
Peut-être, mais c'est une névrose sociale qui va passer comme les autres. Là, dans les années 80, les gens aimaient les coat jeans.
Les aime encore.
Certains les aiment encore. Dans les années 90, c'était Marilyn Manson.
Moi, c'était les Doc puis le fluo.
Mais vous pensez que je nomme un peu des choses arbitrairement
comme ça là, mais pour moi ça relève uniquement de ça.
Vous ne faites aucune publicité personnelle sur les réseaux sociaux?
J'annonce des spectacles d'art vivant parce qu'ils sont difficiles d'accès et c'est difficile de savoir quand et où ils sont présentés. Par exemple, au niveau du cinéma ou de la télé, j'essaie de limiter. Parce que, bon, moi aussi, je suis malade, là. Je suis là-dessus 10 heures par jour, là. Et surtout, je passe 9 des 10 heures à juger tout ce que je vois.
C'est vrai?
Oui. Et donc, peut-être un post sur 20, mais acceptable.
C'est sûr que je tombe dans la case. Parce que moi, je me juge moi-même. Quand je mets pas d'émoticônes, je me sens sec. C'est vrai, je me sens sec, puis je me dis, c'est comme si j'essaie d'obéir à quelque chose qui n'existe pas. J'ai des gens qui me suivent beaucoup.
Donc, moi, Simon Boulris, vous réfléchissez à l'impact de
votre image. Je pense que je suis plus branding que je pensais. Ouais. En même temps, j'ai longtemps été anti-branding, mais c'est comme si ça s'est créé. C'est comme si, oh mon Dieu, je fais toujours ça. Spontanément, c'est juste que je trouve...
Mais à la rigueur, c'est stylistique.
Oui,
vous,
c'est que ça colore.
Vous ne trahissez pas
ça
au nom du marketing.
Peu. Non, c'est juste que ça... Des fois, c'est vrai qu'un texto sans émoticône, le ton n'est pas tout le temps évident.
Kyle Shankton, à votre avis, est-ce qu'on peut faire du marketing de soi en étant authentique?
You know, I don't think so. Side is pretty much... Yeah, you know what, I really agree. With what folks have said so far, which is, and I think I would just add, as a writer, as a poet and novelist, the pressures on marketing for literature are much, much lower than, for television or for music, like more, high distribution forms of media. But even so, I have published with, independent houses, and it's been, independent maisons d'édition, but it's still, for sure, I think that the process of developing a personal brand is antithetical to the development of an authentic sense of artistic self. It has to be because, of course, marketing is about conforming to the needs of others. Even if one is writing for a marginalized or a minority demographic, I write primarily for queer and trans LGBTQ people, there's a really, really high demand to remain the same and to present a face to the world that is saleable, at least among a particular community. And, when I think about how art is developed for most of us, start out doing our artwork alone. Art is very individual. I wrote in my bedroom for 10 years before sharing it on the internet or with anyone else. And certainly I would say that being in the public eye has changed how I present myself. And then when I write, I now think about what an audience is going to say instead of thinking about how I respond to my own work as much. So,
I would say
it's a sacrifice we all have to make.
Est-ce que ça vous censure ou ça vous nourrit de vous savoir entendu?
I think it is both. I was making a photo project with... another trans woman, and we took photos of ourselves in sexy poses with the captions "Dirty Sexy Tranny Whore," just as a way of kind of reclaiming like the stereotypes that are usually made about trans women. Mm-hmm. But then we didn't end up posting it online because we were afraid of just sort of like how that would be understood, and you know, any kind of backlash about using profane words in our artwork. And on the one hand, I find that very sad, you know, like I find it really difficult to have to self-censor in that way before putting art into the public. At the same time, I think that knowing that there is a public brings about a greater sense of accountability. It's both. I think, you know, like there is a greater responsibility. Unfortunately, I think there is some loss of artistic freedom as well.
Mm-hmm. I guess in a way what we're talking about is misinterpretation also.
Absolutely. I mean, I don't know if you've ever been misinterpreted in that way.
Almost every day. Well, par exemple, juste pour Simon, qu'il y avait une phrase super intéressante que tu as dit, Kai, que je voudrais traduire. Kai disait que le mouvement ou l'idée d'un branding personnel pour elle est l'antithèse de la création personnelle, d'une certaine manière. Donc, moi, je voulais juste...
Oui, merci. Il a senti que j'avais perdu un moment. Parce que je suis pas super bon en anglais, je suis désolé.
I know Simon's face. I know Simon's confused emoji. I really do. Mais par exemple, un exemple d'un endroit ou dans ma vie de tous les jours, parce que je joue souvent des personnages... de marginaux, de gars énervés, de fâchés, et que ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir des phases plus fâchées que d'autres. Je sais que dans mon milieu, et même dans mon milieu élargi, on m'invite pas toujours dans des fonctions sociales où il faut se tenir un petit peu drette. T'sais, moi, je considère ça comme si j'avais été mal interprété, bien sûr, mais c'est peut-être pas au même niveau que sur les médias sociaux. Tout ça pour dire que cette question d'être mal interprété, d'être mal compris, pour moi, ça revient vraiment au fait qu'on n'est pas informé, puis on prend pas le temps de s'informer véritablement aujourd'hui. On est dans le jugement rapide, puis je suis le premier à juger rapidement, comme je disais plus tôt. C'est une névrose sociale qui a à voir avec le zapping de la télévision et la rapidité de l'Internet qui est en train de devenir partie intégrante et intégrale de notre boîte de réflexion.
Il y a un mot, c'est un nouveau mot, c'est un néologisme, ça s'appelle titrologuer. On est tellement expéditif qu'on lit sur Facebook et on ne parle qu'à partir des titres. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses de notre époque. C'est un mot qui vient de l'Afrique, mais je trouve que ça dit beaucoup de choses de nous au Québec, au Canada, ben partout, en fait, partout dans le monde. C'est de notre époque.
Moi, j'aimerais profiter de notre tribune simplement pour clarifier un fait. Emmanuel Schwartz sait vivre dans des événements de société. Il est arrivé, il s'est mis du déo et nous l'a fait sentir.
Oui, ça sent très bon.
Ça sent un peu les
skittles.
C'est au
citron. C'est une personne généreuse et ouverte. Charlotte Cardin, vous, l'idée de vous vendre un peu comme produit culturel, vous êtes-vous à l'aise avec ça?
Plus ou moins, dans le sens où je pense que le défi, c'est de se brander tel qu'on est, c'est de pas devoir trouver un brand, de juste se présenter comme ça. Maintenant, c'est certain qu'il y a toujours comme quelque chose qui est différent. Là, je veux dire, sur Facebook, j'écris pas les mêmes choses que j'écrirais à mes amis. T'sais, on fait attention à ce qu'on dit. Il y a des choses que, justement, on se censure un peu plus. T'sais.
Si après 10 minutes, tu penses encore à ton pause, faut que
tu l'enlèves. C'est tellement vrai. C'est
ton signal. Il m'a viandré la veuve.
À peu près. Là. C'est comme si j'y repense après, si c'est pas relax, s'il y a quelque chose, qui... je vois pas pourquoi je m'imposerais ça. Je vais l'enlever, puis ça s'arrête
c'est
là.
Vrai,
ça veut dire que j'ai sûrement pas été moi-même à quelque part, ou soit que... c'est pas assez important pour moi. Si j'ai de la promo à faire, mais que je l'ai mal faite, ou que, tu sais, c'est plus... moi, tu sais, c'est pas nécessaire. Je veux pas que les gens associent mon travail à mon visage, nécessairement. C'est pas moi que je veux promouvoir, mais il reste que j'aime ça, des fois, faire partie de la discussion.
Parce qu'il y en a une. Il y a une discussion avec le public, malgré tout, là, malgré que les réseaux sociaux puissent être le démon. Ouais. Il reste que c'est un accès privilégié à votre public.
On n'a pas dit ça non plus.
Je paraphrase.
Mais je trouve qu'il y a des gens qui le font bien. Et si c'est bien fait, puis si c'est pas à outrance, je pense que ça peut être bénéfique.
Mais je me demande si ça a un effet positif réellement. Hein. Je cite Mamet, un de mes auteurs américains favoris. N'est-ce pas étrange comment, dans notre société d'artistes, tout converge vers les performeurs parce que tout le monde veut passer du temps avec les performeurs? et que ça serait comme juste...
Les courroies de transmission, ça serait eux. Ça
voilà. Ouais. Et donc, tout le monde veut avoir une main là-dessus. Tout le monde veut avoir, veut recevoir un petit peu l'énergie de la création. Et ensuite, ils nomment de façon un peu, peu négative ce phénomène. Ils tentent, je sais pas, de faire sens de ça. Puis cette réflexion-là m'est toujours restée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a réellement besoin quand on crée et qu'est-ce qui attire réellement les gens? Est-ce que c'est pas, version no bullshit, juste ce qui se passe sur le stage ou ce qui se passe dans la salle de répétition, que si ça pouvait être transmis d'une façon directe au public, si on pouvait trouver une façon de le faire simplement sans avoir besoin de tous ces intermédiaires-là, ben peut-être qu'il n'y aurait plus de public à ce moment-là parce que tout le monde serait artiste. Puis, c'est compliqué de penser à une société où ça serait ainsi. Du moins, c'est une question qui me taraude, en tout cas. Chaque fois que je mets le pied du côté organisationnel ou du côté institutionnel de la création d'un projet, je me sens immédiatement cantonné. Je me sens je me sens immédiatement censuré, certainement redirigé même dans mon imaginaire. Je pressens que ça va être quelque chose de formaté, même s'ils ne m'ont pas donné d'impératif, mais que je suis seulement dans ce bain-là.
Il n'y a pas de compromis avec la liberté pour vous.
Idéalement, non, mais pourtant, la liberté, c'est
mais moi, le plus difficile, je pense que dans le processus de casting, là, c'est la chose la plus atroce que je vis dans mon métier. Là. Je suis pas ferrée pour vivre ça non plus, mais c'est le fait de parler de gens, de pointer des visages, de disqualifier des gens pour des choses...
Un gros nez,
oui, et pour un nombre de followers.
Ben voilà!
Mais bien sûr! Mais je pourrais pas dire que ça a une incidence directe. Je peux pas, j'ai jamais entendu, ça serait faux de dire que il y a quelqu'un qui a été choisi over quelqu'un d'autre à cause de ça. Mais c'est nommé dans les
bureaux. Mais bien sûr, ça a un impact.
Et bien en même temps, pour l'avoir vécu quelques fois, ça revient toujours un peu au même. C'est-à-dire, c'est un processus qui se fait vite et qui est compliqué. Mais en sortant à chaque fois, je me sens pas bien. À chaque fois, je me dis, mais il s'est passé là des choses pas legit. Parce qu'on veut la diversité. Tout le monde, en mots, là, on le nomme autour de la table. Tout le monde le dit. Mais soudainement, ça devient plus une priorité finalement, ou en tout cas, c'est disqualifié pour d'autres raisons, puis tu le sais pas. Au fil d'arrivée, il reste que, avec toute la bonne volonté du monde, puis avec toute la... En fait, je pars de chez moi avec l'intention ferme, et ça finit que la diversité corporelle, hop, on l'a oublié, tu sais, soudainement, mais c'est... Puis je mets pas le blâme sur personne, là, mais je sens quand même... Au fond, là, il y a un fond de pas de volonté. Là.
Est-ce que tu mets pas le blâme sur personne parce que forcément, faut que ça continue la saison prochaine?
Pas du tout. Non, parce que, je veux dire, on a quand même... Il y en a pas de casting parfait. Le nôtre est très... Je suis très fière de mon casting pour trop. J'ai gagné des batailles, j'en ai perdu, tout ça. Mais c'est sûr que moi, mettons, j'ai écrit une série « Les deux filles viennent du Saguenay ». Je veux dire, je suis limitée, là. Pour la diversité, là, c'est bon. Après ça, on pourra me dire, j'aurais pu écrire autre chose, mais j'aurais peut-être été moins compétente, tu sais. Puis là, il y a l'autre question de, je vais-tu écrire sur ce que je connais pas? Ben, tu sais, il faudrait que...
Ouais, peut-être.
Mais donc, ça prend plus d'auteurs de la diversité, donc il faut que je laisse ma place à certains endroits. Qui laisse sa place dans la vie? Qui dit, bon, ben, je vais passer mon tour en
c'est
espérant
que
je
prenne la
diversité? Mais cette réflexion-là, le fait que vous vous soyez rendu vous-même est magnifique. Bravo.
Honnêtement, je suis heureuse de ne pas être une artiste, ou du moins une artiste engagée avec des envies d'équité. Parce qu'à écouter les 5 personnes réunies autour de la table, je réalise bien que la promotion de son art, c'est un travail délicat quand on veut demeurer authentique. Puis c'est encore plus difficile de créer en respectant ses valeurs, tout en s'intégrant à un système de production puis de diffusion pas mal plus grand que soi. J'ai quand même envie de croire qu'avec des gens comme nos extraordinaires, c'est possible. Mais ça reste une solide responsabilité. D'ailleurs, dans le 3e et dernier épisode, on va parler de la responsabilité de l'artiste pour favoriser la diversité et améliorer le sort des Québécois. Juste ça.